RCF.
Connaissez-vous Marie-Madeleine ? Bien sûr, me répondrez-vous, mais la connaissez-vous vraiment ? Qui est-elle réellement ? Qu'en dit les Écritures ? Qu'a-t-elle à nous dire ? Tant de visages d'elle contradictoires circulent. De la belle pécheresse pardonnée à l'amie et à la disciple de Jésus, en passant par l'égérie des féministes américaines, allemandes ou britanniques, ou bien encore des amateurs de secrets et de mystères. Marie-Madeleine fascine, elle a toujours fasciné. D'innombrables œuvres littéraires, picturales ou musicales lui sont dédiées. Vous-même, Régis Burnet, vous venez d'écrire aux éditions du Cerf un livre intitulé « Marie-Madeleine, de la pécheresse repentie à l'épouse de Jésus ». Cette belle figure biblique féminine attachante vous fascine-t-elle aussi ? Pourquoi est-elle une sainte si populaire ?
C'est la bonne question. C'est une sainte populaire, je pense, parce que c'est une femme dans une histoire qui manque de femmes, finalement. Alors que dans l'entourage de Jésus, il y avait beaucoup d'hommes, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup dans la tradition. On parle beaucoup des apôtres, on parle beaucoup de Paul, évidemment. Ça manque de femmes. Et puis, probablement à cause de ce destin un peu particulier, de cette femme qui suit Jésus sur les bords du lac de Tibériade, qui probablement a été guérie de démons, donc qui a eu peut-être une existence un peu complexe, et qui tout d'un coup se passionne pour Jésus, le suit dans ses pèlerinages à Jérusalem, dans son ultime montée à Jérusalem, est présente au pied de la croix, et puis c'est à elle que... Il apparaît pour la première fois. C'est la première témoin de la résurrection.
Est-ce l'histoire de cette passion que vous allez nous raconter ?
On va essayer, mais c'est grâce à vous.
Et pourquoi cette passion de Marie-Madeleine ? Le terme de passion est important ?
Je pense que c'est quelque chose de très étonnant, parce qu'on a toujours l'impression, quand on discute avec des gens qui sont spécialistes de Marie-Madeleine ou qui sont fascinés par Marie-Madeleine, on a toujours l'impression que c'est quelqu'un de très proche d'eux. Ça m'a toujours frappé. Il y a des gens qui sont absolument passionnés de Marie-Madeleine, qui vont dans les pèlerinages, vont à la Sainte-Baume, vont à Vézelay. J'ai jamais rencontré des gens qui n'avaient pas quelque chose à dire sur Marie-Madeleine. Même des gens qui, a priori, ne sont pas dans les pèlerinages, des choses comme ça.
Et Marie-Madeleine, elle-même, était une passionnée du Christ ?
Certainement. Certainement pour la bonne raison que les textes nous disent qu'elle était au pied de la croix, alors que la majorité des disciples étaient déjà partis, avaient eu peur. Tous les hommes, en particulier, étaient partis. Je ne vois pas comment on peut rester dans cette situation aussi difficile si on n'a pas un attachement extrêmement profond. Je pense que vous savez, ça doit être difficile de voir mourir quelqu'un qu'on aime.
Reprenons les Écritures ensemble et nous allons lire les Écritures pour voir où est-ce qu'on retrouve cette fameuse Marie de Magdala. Alors, la première fois qu'on la retrouve dans les Écritures, donc, c'est dans Luc. Nous lisons « À la suite de ces événements, voici que Jésus traversait ville et village en prêchant et en annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 apôtres avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée la Magdaléenne, de qui 7 démons étaient sortis, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leur bien. » Donc nous sommes dans Luc au chapitre 8, les versets 1 à 3. Marie appelée la Magdaléenne, qu'est-ce que ça veut dire ?
Très simplement qu'elle vient de Magdala, c'est-à-dire d'une ville qui se trouve sur les bords du lac de Tibériade.
Ville de garnison romaine, on pense ?
C'est une ville de garnison romaine, c'est aussi une ville assez riche, puisque le lac était connu dans toute l'Antiquité pour son poisson. Probablement, Marie faisait partie de ses habitants qui s'étaient plus ou moins enrichis avec l'exportation du poisson. On a trouvé dans un bateau de l'île, qu'on a trouvé dans le Tibre, à Rome, dans l'île Tibérine, à côté, on a retrouvé donc un bateau dans lequel il y avait des amphores dans lequel il y avait du poisson de Tibériade. Donc ça veut dire que les exportations allaient jusqu'à Rome. Probablement, Marie faisait partie de gens plutôt aisés. Quand vous regardez le texte, vous vous apercevez qu'on la cite en même temps que des gens assez haut placée, comme la femme de Chouzin, l'intendant d'Hérode, qui était probablement un des deux ou trois personnages de ce royaume de Galilée. Donc on voit bien que c'était plutôt la haute classe, c'était plutôt des gens assez riches. D'ailleurs, ça se voit quand vous allez à Tibériade. Je pense que beaucoup de nos auditeurs sont allés en pèlerinage en Terre Sainte et on s'aperçoit que les maisons sont en dur. Donc c'est des maisons plutôt de riches.
On se rappelle pour les auditeurs que vous êtes vous-même bibliste, mais aussi historien. Mm-hmm. Donc vous aimez aussi tout ce qui touche à la vie sociale aussi de l'époque.
C'est de toute façon, pour comprendre la Bible, il faut essayer de mettre à son service tous les instruments possibles. Et je suis convaincu que le débat entre Bible et histoire est un faux débat. Les deux s'apportent, donc on ne peut pas séparer l'un de l'autre.
À Magdala, en hébreu, ça veut dire aussi tour. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir au niveau de la tour ?
Oui, il y a une tour. Le nom vient d'une particularité de ce village. J'hésite entre ville et petite et village. Il y avait une tour dont on a trouvé les vestiges. Donc c'est simplement le nom du village.
Elle est nommée dans l'entourage féminin de Jésus, donc c'est intéressant. Un homme, un rabbi, était entouré de femmes qui le suivaient. N'était-ce pas un peu original ?
C'est l'une des grandes particularités du mouvement de Jésus. C'est le fait que ce mouvement est accompagné par des femmes. Et alors là, le texte est très clair. Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leur bien. Non seulement il y avait des femmes, mais on pense que l'intendance du mouvement de Jésus était faite par des femmes. C'est elles qui subventionnaient, si on peut dire, si on peut parler comme ça, c'est elles qui subventionnaient Jésus.
Très important, à la fin du texte que nous avons lu dans Saint-Luc, on dit que Marie de Magdala a été sauvée de 7 démons. 7 démons, qu'est-ce que ça veut dire ?
À l'époque, toute maladie physique ou psychique était attribuée à des démons.
On parle d'esprit mauvais et de maladie.
Voilà, les 7 démons de Marie-Madeleine, dont on ne sait rien, c'est soit une maladie physique, soit une maladie psychique. Et on ne peut pas en dire plus.
Et 7, c'est le comble, c'est...
Oui, ça veut dire qu'elle était très atteinte, si je puis m'exprimer. C'est-à-dire que c'était probablement quelqu'un d'assez... soit qui était très malade et qui a été sauvé, soit qui avait des problèmes psychologiques ou des... C'est pour ça qu'on l'a associée à la pécheresse aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, puisqu'elle avait des démons, elle ressemble à la pécheresse de Luc, que l'on trouve dans le texte
qui précède.
Cette association n'est pas claire. Luc ne dit pas que c'est la même. Donc, on a peut-être un peu brodé sur le texte. Mais on peut penser qu'il s'agit d'une manière de parler de maladie, peut-être de maladie psychique.
Quoi qu'il en soit, elle a retrouvé vie grâce à Jésus.
Je crois que ce que veut dire Luc, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle lui doit la vie. Déjà, d'avoir un démon, ça vous empêche singulièrement de vivre. Je pense que l'accumulation des 7 démons, c'est une manière de dire, en gros, elle était fichue. Finalement, c'est Jésus qui la revitalise. C'est presque une seconde naissance.
Écoutons cette superbe aire baroque de Giovanni Bononcini, extrait de son oratorio La Maddalena. Écoutez, c'est l'amour céleste lui-même qui chante. De mes flèches puissantes, la femme de Magdala, maintenant repentie et douloureuse, est tout entière le trophée. Les trompettes vont donc chanter cette victoire.
Forte mio braccio. comme Bible, Bénédicte Marie.
Continuons avec vous, Régis Burnet, à suivre les traces de Marie-Madeleine dans les évangiles. Les quatre évangélistes s'accordent unanimement pour affirmer que Marie de Magdala était au pied de la croix. Il est écrit dans Saint Jean, au chapitre 19, verset 25, « Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Alors, on retrouve ces fameuses femmes qui entouraient Jésus lorsqu'il parcourait les routes et qui se trouvent encore au pied de la croix alors qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes.
Il n'y en a pas, à part chez Jean. Le disciple, les autres évangélistes n'ont même pas conservé la présence de ce disciple. On a l'impression que les plus courageuses sont vraiment les femmes. Alors, qui sait ? Bon, il y a la mère, la tante, parce que souvent on a associé Clopas avec Marie, enfin dans la famille de Marie. Et puis il y a Marie de la Magdaléenne. On sent que cette femme, dont on ne peut pas préciser les relations avec Jésus, faisait partie de la famille. Et on sent que finalement, ce qui reste, c'est les liens familiaux. Comme si Marie avait été adoptée dans la famille de Jésus.
C'est les liens de cœur aussi.
C'est les liens du cœur, oui.
Un attachement profond.
Je crois que, en parlant d'adoption, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que Jésus, Paul le dira très bien, nous réalise enfants de Dieu par adoption.
Alors, si on en revient au texte, on voit Marie, la mère de Jésus, la sœur, Marie, femme de Clopas, Marie de Magdala. Marie, c'est un prénom commun, souvent utilisé ?
Mais oui, c'est la sœur de Moïse. On est à une époque où la majorité des Juifs qui habitent hors de la Judée, donc en Galilée, hein, qui est une zone plutôt... on appelle ça la Galilée des nations, donc c'est une zone qui n'est pas aussi juive que la Judée, si je puis dire, ont des prénoms nationalistes, si je puis dire, c'est-à-dire qui rappellent l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on a des Judas, puisque c'est le patriarche.
Des Saül.
Judas, des Saül Paul, et puis des Myriam.
Alors, on voit Marie, l'Immaculée Conception, et Marie, celle qui était sauvée de 7 démons, elles sont l'une à côté de l'autre.
On voit là la trace du passage de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, c'est celui qui arrive à mettre ensemble des contraires ou des gens qui ne se seraient probablement pas rencontrés. Dans cette présence de la croix, il y a tout l'évangile.
C'est beau quand même de voir cette proximité de ces femmes et de ces femmes qui, comme avec un certain respect, sont un petit peu, regardent de loin. On sent un regard contemplatif, un regard d'adoration auprès de cet homme qu'elles aiment et qui est en train de mourir.
C'est vrai que Jean les met au pied de la croix, hein, on sent. Alors que les autres, en particulier Matthieu, montrent un certain retrait. Et moi, j'ai toujours trouvé que ce retrait était très beau parce que, encore une fois, c'est dur de voir mourir quelqu'un. Donc, être tout à côté pour voir les choses les plus horribles se passer, je crois que ce n'est pas la bonne distance. C'est la distance un peu éloignée. Et puis, c'est aussi la distance qui permet que du haut de la croix, il les voit.
Quel était ce regard ? Comment était-il d'après vous, cette Marie de Magdala qui était au pied de la croix, qui voyait son bien-aimé, celui qui l'avait gracié, celui qui l'avait sauvé, qui l'avait libéré en train de mourir ?
Ah, je pense que c'est désespéré.
Qu'est-ce qu'elle lui a porté à ce Jésus au pied de la croix ?
Le fait d'être là.
C'est ça, le jusqu'au bout de l'amour ?
Ah, oui, je pense. L'amour va jusqu'à la mort, oui.
Et l'amour va jusqu'à être présent auprès de quelqu'un qu'on aime et qui est en train de mourir.
Si on le peut. Je crois que la question, c'est ça. C'est si on le peut. Les disciples, on les a souvent critiqués en disant « ils ont eu peur, ils sont lâches, c'est pas bien ». Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut toujours être présent et si cette lâcheté, parfois, est pas un peu excusable.
Mais n'y a-t-il pas une spécificité féminine de ces femmes au pied de la croix, justement ? Une spécificité féminine de l'accompagnement ?
Ça, très clairement. Il suffit d'aller dans des unités de soins palliatifs. Hein. Il y a des infirmières, il y a des femmes. Les hommes ne sont pas là trop souvent. Je pense que nous, les hommes, on a peur de la mort jusqu'au bout. Peut-être que vous, peut-être que c'est parce que vous donnez la vie, donc vous n'avez pas peur de la mort. C'est peut-être ça, mais je pense que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout et ça, c'est admirable.
Il y a une très belle phrase de Lacordaire qui dit que ses proches, ses très très proches de Jésus, étaient comme prédestinés par Dieu pour être des consolateurs du Dieu fait homme. Écoutons ce duo du Christ avec Marie-Madeleine. Le Christ demande « Femme, pourquoi pleures-tu devant le tombeau ?» Marie-Madeleine répond « Ils ont pris mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » C'est toi qui l'as emporté, dis-le-moi, et moi, je le reprendrai. L'œuvre est de Banchieri.
La Bible, des histoires pleines d'humanité et de sainteté.
Nous voici au cœur de l'histoire de Marie de Magdala, au cœur de l'Évangile, au fondement de notre foi. Alors que Marie-Madeleine, au matin de Pâques, voyant le tombeau vide, cherche à éplorer le corps de Jésus, du Christ, celui qui l'avait guéri des 7 démons et qui était mort crucifié comme un meurtrier. Lisons ce passage en fait bouleversant, le chapitre 20 de l'Évangile de Saint Jean. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, en pleurs. Comme donc elle pleurait, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau et elle voit deux anges, vêtus de blanc, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?» Elle, pensant qu'il s'agissait du jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, je l'enlèverai. » Jésus lui dit « Marie ». Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais hâte-toi vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Ce texte est très, très connu. Resituons-nous, donc Marie de Magdala était au pied de la croix, elle a quitté son bien-aimé qui était un cadavre, un corps supplicié, et donc elle va dans l'obscurité, le matin elle va au tombeau et le tombeau est vide.
Oui, elle va en pleurs et c'est ça qui donne tout le sens du texte, c'est-à-dire que elle croit pas à la résurrection, enfin elle en a jamais vu des gens qui ressuscitaient, donc une fois qu'on est mort, on est mort. Et je crois que tout ce texte est construit sur une opposition entre pleurer, se retourner, annoncer. C'est-à-dire que c'est l'ancienne attitude.
On parle d'une Madeleine qui pleure. Madeleine. Ça vient de là, l'expression.
Pleurer comme, hein, une Madeleine, voilà. Voilà.
Donc pleurer, l'ancienne attitude.
Le retournement qui se fait chez elle à l'appel du nom, qui évidemment, en retournement, en latin, ça se dit conversion. Hein, ça
conversion se dit, veut ça dire se dit, retournement en
oui,
latin.
Oui, absolument. Donc c'est on change de sens. Et puis, bien entendu, ce changement de direction, alors qu'elle a les têtes baissées vers la mort, si je puis dire, dans le tombeau, on voit qu'elle a la tête quasiment vers l'intérieur du tombeau, eh bien, le Christ l'oriente vers une autre direction, qui est celle de la mission.
Alors tout d'abord, elle est absorbée par la douleur, elle est dans le deuil et elle pleure, donc à la limite, elle ne peut rien voir. Il y a comme une cécité presque spirituelle, parce qu'en fait, Jésus est là, il y a le jardinier, c'est Jésus, et elle ne le reconnaît pas.
Oui, comment est-ce qu'elle pourrait le reconnaître ? Il est mort. Quand on est mort, on est mort. Enfin, je veux dire, on a souvent dit, oui, Marie-Madeleine, l'ancienne attitude, etc. Mais il faut aussi la comprendre. Il est mort. Pour elle, il est mort. Donc, elle va, comme vous disiez, jusqu'au bout de l'amour, qui est de faire au moins ce dernier geste qui consiste à nettoyer le corps et à l'ensevelir dignement, proprement, si je puis dire.
Et alors, on voit Jésus qui dit, mais que cherches-tu ? Ça nous fait penser à la vocation des apôtres, quand il dit, mais... Que désirez-vous? Que cherchez-vous? On a l'impression que derrière, il y a... Mais quelle est ta soif, Marie-Madeleine?
Il y a ça. Et puis, enfin, c'est quand même un peu bizarre quand vous lisez le texte. Elle contemple deux anges en blanc assis, un à la tête et un aux pieds, là où était posé le corps. Et ils lui disent « Pourquoi pleures-tu ? » Et elle voit des anges, ça la gêne pas.
Et deux,
en plus, on en voit deux. On voit bien qu'elle est un peu perturbée quand même. C'est-à-dire que le texte nous montre bien le caractère quasi invraisemblable de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle ne se rend même pas compte. Elle est toute dans son deuil et elle ne se rend même pas compte qu'il y a des anges. Donc on voit bien qu'elle est toute en elle-même. Elle est fermée en elle-même. Et il y aurait eu des choses bien pires que des anges, bien plus étonnantes que des anges. Je crois qu'elle ne les aurait pas vues non plus.
Donc en fait, la conversion, c'est l'appel de son nom, Marie. Donc c'est pas Marie, celle que j'ai sauvée des sept démons, c'est pas Marie qui a fait de Magdala, c'est Marie tout court, c'est la relation interpersonnelle entre Jésus et Marie. J'aurais aimé entendre ce nom prononcé, il devait y avoir de la tendresse.
Mais je crois qu'il y a même plus que de la tendresse, parce que n'oublions pas que Jésus est aussi Dieu. Et celui qui donne le nom, c'est celui qui crée. En l'appelant par son nom, Jésus la recrée, Marie, d'une certaine façon. Si vous voulez, il y a deux engendrements de Marie. Il y a un premier engendrement qui est le moment où il la libère des sept démons. Il y a ce deuxième engendrement. Donc il y a de la tendresse, mais il y a aussi la force du Dieu créateur.
Rabboni, mon maître, mon petit maître, dans cette réponse de Marie, il y a beaucoup de tendresse, d'affection et en même temps du respect. Et attention, là, Jésus lui dit « ne me touche pas », en grec, on sait bien que la traduction c'est plutôt « ne me retiens pas ». Alors pourquoi « ne me retiens pas » Ça veut dire qu'il y a une dynamique pascale déjà dans ce « ne me retiens pas »
Oui, très clairement. Très clairement. Et je pense que c'est aussi l'idée que le monde des anciennes relations est fini. C'est-à-dire que Marie a probablement un geste d'étreinte ou de vouloir se...
Le garder pour lui. Voilà. Son bien-aimé, elle l'a retrouvé, elle veut le toucher, elle veut le garder pour lui.
Oui, il y a ça. Et puis, je pense aussi le geste spontané de l'amitié. Jésus l'oriente vers d'autres relations. Il a une autre visée pour elle. Les Dominicains, lorsqu'ils ont fait de Marie-Madeleine leur patronne, ils ont bien compris ce texte-là. C'est que Marie-Madeleine, c'est la première des prêcheurs.
C'est l'apôtre des apôtres.
C'est l'apôtre des apôtres, oui. C'est comme ça qu'on l'appelait au Moyen-Âge. Et je crois que les Dominicains ont parfaitement compris ça. Marie-Madeleine, c'est celle qui annonce le Christ. C'est la première chrétienne.
Depuis que je meurs d'amour, si loin de moi je vis, car je vis dans le Seigneur qui m'a voulu pour lui. Je lui offris mon cœur pour qu'il y puisse écrire: je meurs de ne pas mourir. Et cette prison divine d'amour où je demeure fit de Dieu ma victime et libéra mon cœur. Une telle passion m'anime de voir Dieu m'appartenir. Je meurs de ne pas mourir. Quelle est longue cette vie, que cet exil est dur. Ces barreaux et ces chaînes où la main s'y s'emmure. Si violente est ma peine dans l'attente de sortir. Je meurs de ne pas mourir. Oh, que la vie est amère quand le Seigneur n'est pas là. Car si l'amour est douceur, l'espérance ne l'est pas. Que Dieu m'ôte la lourdeur, le froid qui vient me saisir. Je meurs de ne pas mourir. Je dois mourir un jour, et bien ma seule confiance. Car en mourant, c'est la vie qui nourrit mon espérance. Ô mort qui donne la vie, ne tarde pas, vers toi j'aspire. Je meurs de ne pas mourir. Vois comme l'amour est fort, ô vie, ne viens pas me charger. Vois, il ne me reste plus qu'à te perdre pour te gagner. Douce mort, sois bienvenue, que vienne léger mourir. Je meurs de ne pas mourir. notre vie de là-haut est la vraie vie déjà. Tant que celle-ci ne meurt vivante, on n'en jouit pas. Ô mort, ne fuis pas mon cœur. Pour moi d'abord vivre c'est mourir. Je meurs de ne pas mourir. Ô vie, que puis-je donner à mon Dieu qui vit en moi pour mériter de le gagner, sinon te perdre toi. J'aime tellement mon aimé, je veux en mourant le saisir. Je meurs de ne pas mourir.
Et comme Bible, Bénédicte Marie.
Régis Burnet, après ce beau chant de Pierre Eliane, nous évoquons ensemble la belle figure de Marie-Madeleine, la première des apôtres. Nous l'avons vue au matin de la résurrection. Est-ce que c'est la même personne que Marie de Béthanie et la même personne en fait que la pécheresse repentie? En fait, y a-t-il une, deux ou trois Maries?
Alors, dans les textes trois. Très clairement, on voit bien qu'il y a Marthe et Marie de Béthanie, et puis Marie de Magdala, et puis la pécheresse. Alors peut-être on peut faire deux, c'est-à-dire qu'on peut considérer que la pécheresse et Marie de Magdala, ça peut faire une seule.
Qui c'était cette pécheresse, pouvez-vous le rappeler?
C'est celle que l'on trouve dans Luc, qui lors du repas chez le pharisien, brise son vase de parfum et oint les pieds de Jésus.
Et là on pense que c'est une prostituée.
Et là on pense que c'est une prostituée ou une pécheresse. Prostituée, on n'est pas sûr. Mais
la tradition, en tout cas, le dit.
La tradition le dit. C'est-à-dire que ça pouvait être aussi une femme qui vivait seule. Hein. Ça pouvait être. On ne sait pas quel était son péché. Dans les textes, on en a trois, ou on peut peut-être en avoir deux, si on en joint deux. Et puis, il y a la tradition de l'Église, surtout à partir du pontificat du pape Grégoire le Grand.
C'est quoi, 7e siècle à peu près?
C'est 6e siècle.
6e siècle.
Oui, qui décide de dire que les trois n'en font qu'une. Il a une célèbre homélie dans laquelle il dit « c'est la même ». C'est un peu un coup de force exégétique, si on peut dire, mais c'est surtout un très grand gain théologique et pour la piété. Parce que finalement, vous faites de Marie de Magdala, qui est la meilleure amie de Jésus, qui le suit jusqu'au bout, que l'on retrouve à la croix et qui est finalement celle qui est la première à voir l'apparition de Jésus. Vous mettez cette
Jésus
figure,
ressuscité.
Cette figure de disciple avec la figure de la Marie de Béthanie, donc qui est celle qui est la maison amie, celle qui, avec Marthe, tient la maison dans laquelle Jésus aime bien aller quand il va à Jérusalem. Et puis, vous mettez en même temps la figure de la pécheresse. Et donc, vous avez une image extraordinaire d'une pécheresse pardonnée qui devient la meilleure amie de Jésus et dont la récompense, c'est de voir Jésus ressuscité. Donc, finalement, peu importe les travaux exégétiques, ce qui est important, c'est cette figure spirituelle, c'est-à-dire une figure de pécheresse pardonnée. Et dans cette figure-là, vous avez toute la doctrine de la grâce.
Toute la doctrine de la grâce, dans une femme, manifestement, quoi qu'il en soit, ces trois femmes, s'il y en a trois ou la seule, peu importe, ce sont des femmes de feu.
Oui, bien sûr.
Avec un tempérament, une impétuosité, une vivacité et en même temps un désir d'amour fort.
Surtout notre Marie de Béthanie, là, dont on va parler. On sent que Marie de Magdala, on ne sait pas, on sent qu'elle est très fidèle. Mais Marie de Béthanie, on sent qu'elle, c'est une maîtresse femme. Hein,
oh ben Marie de Magdala, quand elle voit le jardinier, elle dit où l'as-tu mis, je le veux, ce corps, etc. On sent quand même qu'elle a quand même une certaine vivacité. Elle court pour aller retrouver Pierre.
Ah oui, non, mais je pense que Jésus devait avoir un tel charisme que forcément on pouvait pas rester indifférent.
Donc en fait, avant tout, Marie Madeleine, c'est une figure mystique. Ce qui nous intéresse, c'est sa relation avec Jésus, non?
Oui. C'est la figure du chrétien. Si vous voulez, la vie de Marie-Madeleine reprend la vie chrétienne telle qu'elle doit être. C'est-à-dire, on est recréé par Jésus, on est libéré des sept démons, on fait un moment de compagnonnage avec Jésus, et ensuite on est en union avec lui dans sa résurrection, et en union mystique, puisque la suite de la tradition explique la Sainte Baume, le fait que Marie vit toute seule dans ce paysage
ermite.
Magnifique comme une ermite, une vie mystique. Finalement, dans Marie-Madeleine, vous avez le résumé de la vie chrétienne. Vous avez toutes les étapes d'une vie chrétienne.
Puis c'est avant tout une très 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 proche de Jésus.
Et c'est avant tout une très proche de Jésus, et c'est quelqu'un qui ne fait pas peur. C'est une figure extrêmement humaine, puisqu'elle a eu des démons, donc elle a eu des problèmes, comme on dit maintenant, dans une vie antérieure. Dans sa vie chrétienne, elle arrive à une forme de sainteté qui est non pas d'être absolument une femme parfaite, mais c'est simplement une femme fidèle.
On peut dire que c'est une femme qui était cassée, avec des termes d'aujourd'hui, et puis qui est maintenant libérée et graciée.
Oui. Un de ceux qui a écrit sur Marie-Madeleine dit Marie-Madeleine ou le triomphe de la grâce. Je crois que c'est quelque chose de très beau. C'est ce que la grâce peut faire.
Dans le livre que vous avez écrit vous-même, je rappelle Marie-Madeleine, de la pécheresse repentie à l'épouse de Jésus. On voit sur la couverture de votre livre, ça reproduit un tableau bien connu de Marie-Madeleine, Marie la pénitente à la veilleuse de Georges de la Tour. Et très souvent, cette iconographie donc représente Marie-Madeleine comme une prostituée de Palestine, en fait, plus ou moins vêtue, avec des longs cheveux, dénuée. Alors pourquoi une telle représentation ?
Eh bien, tout simplement parce qu'on a, au cours des siècles, bien accentué le fait que Marie-Madeleine avait eu une vie antérieure qui était une vie de prostituée. Et donc, pour bien montrer le triomphe de la grâce, justement, on opposait Marie-Madeleine comme vêtue de ses beaux atours, etc., qui tout d'un coup jette ça à bas. Et vous avez des tableaux où on voit Marie qui jette par terre tous les bijoux.
Parce il y a un crâne sur sur ses genoux, c'est ça, parce que ça fait froid dans le dos.
Parce que Georges Latour insiste sur le côté méditatif de la Madeleine. C'est-à-dire que Latour a bien compris que c'était une femme mystique. Elle est dans la position classique de la mélancolie, c'est-à-dire une main sur le menton, et elle regarde avec un peu de mélancolie et beaucoup d'attention et peut-être de concentration cette flamme. Et on voit que Latour a parfaitement compris que c'était avant tout une figure méditative, Marie.
Et pourquoi ce crâne sur les genoux ?
Parce qu'elle est dans son désert et qu'elle médite sur la fin des choses, sur la fin de l'homme. Je pense que Latour a voulu aussi rajouter toutes les idées païennes sur le « pense à la mort, memento mori ». C'est ça aussi la conversion, c'est de se rendre compte que toutes choses vont avoir une fin.
C'est un peu une icône de la contrition, une figure de la repentance.
C'est ce qu'en ont fait en particulier des gens comme Bérulle, qui a fait une élévation sur Marie-Madeleine, qui est un texte absolument éblouissant, où il montre que finalement Marie-Madeleine a passé plus de temps dans le désert qu'avec son bien-aimé, et que ce temps-là, c'est le temps de sa purification, le temps de son élévation. Pour Bérulle, c'est Marie-Madeleine, c'est vraiment la plus parfaite disciple de Jésus, parce que c'est celle qui, après, retrouve son bien-aimé en elle-même, dans la prière.
Écoutons ce poème de la petite Thérèse sur une musique de Pierre Eliane.
Mon Dieu, mon divin maître Jésus, mon seul amour, à vos pieds je veux être, j'y fixe mon séjour. En vain sur cette terre, j'ai cherché le bonheur. Une tristesse amère, cela remplit mon cœur.
À mes pieds, Madeleine, tu trouveras toujours, pour consoler ta peine, un doux regard d'amour. Désormais, ô Marie, tu veux vivre pour moi, et moi, toute ma vie, je souffrirai pour toi.
C'en est trop, mon bon maître, je me sens défaillir. Que ne puis-je renaître en ce jour ou mourir? Comprenez mes alarmes, Jésus, ô mon sauveur. J'ai fait couler vos larmes, quelle immense douleur.
Il est vrai, sur ton âme, j'ai répandu des pleurs, mais d'un seul trait de flamme, je puis changer les cœurs. Ton âme rajeunit par mon regard divin.
B comme Bible, les grands personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Ouvrons la Bible au chapitre 10 de Saint Luc, lisons les versets 38 à 42. comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Alors, on va s'arrêter là. On connaît très bien l'histoire. Après, Marthe va le dire. Marthe va s'agiter, etc. Et va dire à Jésus, mais tu dis rien, ma sœur, qui ne bouge pas. Mais ça, à la limite, aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est Marie. Alors, Marie, c'est donc la sœur de Marthe. Et Marie, que fait-elle? Elle est assise au pied du Seigneur et elle écoutait sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est l'image du parfait disciple, de celui qui est capable de s'arrêter, de faire taire les bruits du monde. Parce que finalement, c'est ça le sens du texte. On a souvent opposé vie contemplative, vie active, etc. Je crois que c'est plutôt une question de timing, pour parler de manière contemporaine. C'est pas le fait que Marie soit le représentant de la vie contemplative et que Marthe soit la représentante de la vie active. C'est simplement que le Seigneur est là. Et quand le Seigneur est là, la juste attitude, c'est d'écouter. Après, il sera temps d'aller se vaquer aux affaires de la maison. Mais je crois que c'est vraiment une affaire de bon moment. On est au moment où le Seigneur est là, on écoute.
C'est le chemin ? Écoute Israël, chemin Israël.
Oui, c'est le chemin Israël, oui. C'est le fait que quand le Messie est là, on se tait et on écoute. C'est plus le moment d'aller gratouiller dans les casseroles.
On rappelle aussi qu'il était écrit dans l'Écriture aussi que Jésus aimait Marie, Marthe et Lazare, c'était ses amis, c'était un lieu, je suppose, Béthanie, qui était un peu comme chez lui, où il aimait se reposer le corps, mais aussi l'âme, le cœur, non ?
Il faut imaginer la vie quotidienne, c'est-à-dire que Jésus, avant tout, il est de Nazareth, il est de Galilée, il est donc d'une province qui se trouve au nord, qui est largement peuplée de païens, et qui a des rapports assez fréquent, mais quand même pas si fréquent que ça, avec la ville mère, si je puis dire, qui est la ville de Jérusalem.
Donc Marie de Magdala, elle était de Galilée.
Marie de Magdala et de Galilée.
Et là, on est
Marie
en
Béthanie,
Judée.
On est en Judée, on est à quelques kilomètres, même quelques centaines de mètres de Béthanie. Si vous allez en Terre Sainte et que vous...
Il faut y aller à pied, en fait.
On peut y aller à pied. Et souvent, quand on fait un pèlerinage, une montée à Jérusalem, on s'arrête à Béthanie parce que c'est là où on a un joli point de vue. Donc, c'est à quelques centaines de mètres de Jérusalem. Et on voit bien que là, c'est la base arrière de Jésus en Judée. Autant on peut dire que la maison de Pierre, avec sa belle-mère, sa fameuse belle-mère, c'est la maison de Jésus en Galilée, autant là, on sent que c'est là où il était bien lorsqu'il avait à monter en Judée.
Écoutons ce que dit donc Jésus à Marthe. Il dit « Marthe, Marthe, te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. Une seule, c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Alors, on parle souvent de cette unique nécessaire. C'est quoi l'unique nécessaire pour le Christ ?
Je pense que c'est d'écouter sa voix. C'est d'écouter sa voix et de ne pas se laisser distraire par des choses fort utiles qui sont le fait de préparer le repas. L'unique nécessaire, c'est ça. Après, on peut préparer le repas en ayant écouté. Mais au début, on écoute.
Et la meilleure part ? C'est quoi la meilleure part ? C'est toujours écouter sa voix ? C'est être en présence du Seigneur ?
Oui, parce qu'il arrivera un moment où probablement on ne pourra plus aller aux casseroles parce qu'on sera fatigué, mais la présence du Seigneur sera toujours là. C'est comme les gens qui se donnent totalement dans leur travail, qui n'ont pas compris qu'il y a aussi une vie de famille et une vie affective, une vie avec le Seigneur, etc. Le jour où cette vie de travail disparaît, soit parce que c'est la retraite, soit parce qu'ils sont virés, soit parce que, etc., ils sont dépossédés d'eux-mêmes. La meilleure part, elle est dans la relation avec Dieu et avec les autres, qui sont une manière de rencontrer Dieu.
Alors si on continue cette histoire de Béthanie, on connaît très très bien aussi la résurrection de Lazare. On sait que Lazare, le fameux frère de Marthe et Marie, va mourir et que Jésus va venir le ressusciter. Alors pendant cet épisode de Marthe et Marie et de Lazare et de la mort de Lazare, quelle va être l'attitude de Marie en particulier ?
Eh bien Marie, elle n'a pas l'attitude que l'on attendait. C'est-à-dire que dans le premier épisode, on s'aperçoit que celle qui est active, c'est Marthe, et que c'est Marie qui est là à attendre. Eh bien, on s'aperçoit que dans cet épisode-là, c'est le contraire. C'est-à-dire que Marie attend toute seule à la maison, tandis que Marthe, apprenant que Jésus arrivait, va au-devant de lui en disant « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »
Elle est croyante.
Marthe est croyante. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire d'un côté, il y a Marthe qui ne comprend rien et qui est à la cuisine, et il y a Marie qui comprend tout. Eh bien non, on voit bien que les deux attitudes avaient leur légitimité. Dans ce cas-là, c'est Marie qui fait finalement ce qu'elle doit faire, qui consiste à recevoir dans une maison juive, lorsqu'il y a un mort, eh bien il y a un deuil, et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour tenir la maison et pour accueillir les visiteurs qui viennent présenter leurs condoléances.
Écoutons cette prière de Marie-Madeleine chantée en araméen par Sœur Marie Kérouz. Alors continuons avec vous, Régis Burnet, à ouvrir l'évangile et nous sommes en ce moment à Béthanie. Alors à Béthanie, il va se passer encore quelque chose d'assez, j'allais dire, très touchant, très beau, très, très prophétique. C'est la fameuse onction à Béthanie. Alors nous allons prendre dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, le passage de l'onction de Béthanie. Comme il se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux, alors qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un nard pur de grand prix. Brisant le flacon, elle lui versa sur la tête. Or, il y eut qui s'indignèrent entre eux. À quoi bon ce gaspillage de parfum ? Ce parfum pouvait être vendu plus de 300 deniers et donné aux pauvres. Et il la rudoyait. Mais Jésus dit : laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous ? C'est une bonne œuvre qu'elle a accomplie sur moi. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, et quand vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qui était en son pouvoir. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le dis, partout où sera proclamé l'Évangile, au monde entier, on redira aussi à sa mémoire ce qu'elle vient de faire. Effectivement, encore aujourd'hui, on parle ensemble de ce qu'elle vient de faire, cette onction de Béthanie. Donc cette femme, Marie de Béthanie, qui va verser un parfum sur la tête de son bien-aimé. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors c'est certainement un des textes les plus beaux et les plus symboliques du Nouveau Testament. En effet, l'onction, traditionnellement dans la Bible, c'est le geste que l'on fait au roi. C'est l'onction messianique.
Messie, ça veut dire oint.
Messie, ça veut dire machiar, ça veut dire oint en hébreu.
Oindre, ça veut dire mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un qui va devenir un roi.
Et on le voit dans l'Ancien Testament, où on oint David, on oint d'abord Saül, puis après c'est David. Comme Messie, donc comme roi, prêtre d'Israël. Et cette action, Marie va la faire alors que Jésus est vivant et alors qu'il n'a rien d'un Messie. C'est-à-dire qu'il n'est pas le général en chef des armées d'Israël, il n'est pas en position de prendre le temple, etc. Donc elle a perçu ce qui allait se passer, elle a perçu que Jésus et ce Messie souffrant qu'attendaient les Hébreux depuis la prédication d'Isaïe. Mais elle fait autre chose, parce qu'en même temps, on voit bien que la substance qu'elle utilise pour faire cette onction, c'est une substance tout à fait particulière qui est le nard. Le nard, ça fait partie des épices qui servent à oindre les morts. Donc, c'est une onction messianique, mais c'est également une onction funèbre. Et on voit bien que les deux se mélangent dans ce petit épisode et que Marie anticipe à la fois la messianité de Jésus, mais aussi sa mort douloureuse. Parce que quand vous lisez bien le texte, elle n'aura pas l'occasion de le faire. Parce qu'elle vient avec ses aromates, on le dit dans les évangiles, mais elle ne va pas jusqu'au bout de son geste. Jésus est déjà ressuscité, on n'a plus besoin de l'onction du haut mort. Donc finalement, elle réussit à réaliser cette onction du vivant de Jésus.
Alors, ce geste prophétique, comment en a-t-elle eu l'intuition ? C'est qu'elle aimait tellement son Messie, elle aimait tellement son Jésus, qu'elle a perçu comme une intuition féminine ou de l'Esprit-Saint ?
C'est la même chose. C'est la même chose. Le texte ne le dit pas. Je pense que oui, il y a quelque chose de prophétique. Elle fait finalement, elle devient un prophète. Vous savez, les prophètes, dans l'Ancien Testament, on reconnaît un prophète à trois choses. D'abord, il s'habille un peu pas très proprement, la plupart du temps avec des poils de chameau, un costume en poils de chameau, c'est Jean-Baptiste. Il raconte des choses et il fait des gestes. C'est Jérémie qui enterre une ceinture, c'est Élie qui fait un nombre de gestes. Là, Marie-Madeleine, on peut... Ça y est, je me suis trahi, c'est Marie de Béthanie. Marie de Béthanie, on la reconnaît à son caractère prophétique, au geste. Elle a un geste prophétique, c'est une prophétesse.
Et aussi parce que souvent on voit que les prophètes n'ont pas peur, elle n'a pas peur. Là, je veux dire, elle brise l'ordre social. Une femme qui rentre chez des hommes oui. et qui va verser du parfum sur la tête, enfin je veux dire, ça ne se fait pas, surtout que ce n'est même pas une femme mariée, on sait que c'est une femme qui est seule, donc on peut le faire éventuellement à son mari, j'allais dire un geste pareil, mais c'est un geste d'une grande intimité.
Oui, et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit. Encore une fois, c'est comme dans l'épisode de Marthe et de Marie, c'est le bon moment. Il y a des moments où on peut s'occuper des pauvres, il faut toujours s'occuper des pauvres. Il le dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais elle, son intuition prophétique, c'est d'avoir saisi le bon moment. On est à quelques heures de la montée à Jérusalem qui va se terminer tragiquement. C'est le moment de faire ce geste-là. Après, on aura le temps de faire d'autres choses.
Alors Judas est furieux parce qu'avec cet argent... On peut se dire quand même, c'est vrai, ces gestes, c'est un petit peu fou. J'aime beaucoup de voir que Jean-Paul II, dans Vita Consecrata, disait que ce geste du parfum de Béthanie, ça rappelait la vie consacrée, la vie des gens qui donnaient leur vie comme ça. C'était fou, mais on le faisait par amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que, encore une fois, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour donner ce qu'on a de plus précieux. Et je crois que vous avez parfaitement raison de faire ce parallèle avec Vita Consecrata, avec tous ceux qui donnent leur vie pour Dieu. Finalement, ils donnent ce qu'ils ont de plus précieux, qui est leur vie, qui est leur temps, etc. Et quand on est face à Dieu, disent les textes, il faut avoir ce geste-là. C'est-à-dire que Dieu, c'est celui qui fait sortir l'homme du système marchand, financier, etc. On donne tout gratuitement. On passe d'une logique du raisonnement, du calcul, de la rétribution à une logique de la gratuité. Et donc c'est pour ça que ce parfum envolé, puisque c'est toujours pareil, les gens se plaignent, mais c'est trop tard. Le parfum est envolé, on ne va pas le rattraper.
Il devait emplir la pièce.
Oui, oui, ça sent fort le nard. Hein.
C'est ça ce qu'on appelle l'odeur de sainteté ?
C'est une bonne question. Encore une fois, je crois que ça devait sentir très fort. L'odeur de sainteté... Non, je crois que l'odeur de sainteté, c'est l'odeur de celui qui... Vous savez, c'est l'odeur du saint qui est mort qui ne se décompose pas et qui sent bon. Alors qu'un mort, normalement, ça sent pas très bon. Eh bien, je crois que là aussi, c'est pareil. C'est cette idée que le saint, il n'y peut rien. C'est son corps. Il a tout abandonné et c'est comme ça, c'est du plus. Je crois que cette histoire d'odeur, c'est du plus. C'est-à-dire que non seulement elle a dépensé énormément d'argent en faisant ce geste-là, ce geste prophétique, mais il y a en plus l'odeur. C'est-à-dire que c'est un épisode qui sent bon.
Alors, cette femme, elle a un amour, j'allais dire, pour Jésus qui est démesuré aussi, non ? C'est du plus, c'est du trop, c'est trop comme on dirait aujourd'hui.
Oui, mais Jésus, ça n'a pas l'air de le gêner. C'est ça qui est très bien. C'est qu'au contraire, il ne lui adresse que des félicitations en disant « on se souviendra d'elle tout le temps ».
Est-ce qu'il s'est révélé ? Aujourd'hui encore, on en parle et on en parle depuis 20 siècles de cette femme.
Parce qu'elle est passionnée et parce qu'elle est capable d'avoir des gestes prophétiques, des gestes d'amour, des gestes de fidélité. Je pense que c'est pour ça. Elle est trop, comme vous disiez. Elle est très humaine, mais elle va juste un petit peu plus que nous.
Je reprends le titre de votre ouvrage, « De la pécheresse repentie à l'épouse de Jésus ». Alors aujourd'hui, quand on lit ça, on a toujours peur. De quoi va-t-il parler ? Du Da Vinci Code, l'épouse de Jésus, ce serait la maîtresse de Jésus. De quoi il parle ? Pourquoi vous avez mis l'épouse de Jésus ?
Tout simplement parce que justement, j'ai voulu m'intéresser à la façon dont Marie-Madeleine a été reçue par les différents siècles. Et je m'interroge sur le fait qu'à notre époque, vous avez cité le Da Vinci Code, on la reçoit comme... l'épouse de Jésus, c'est-à-dire avec des histoires de flirt, de relations sexuelles, etc. Je veux dire par là que ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Qu'est-ce que ça dit d'une époque qui se passionne pour le Da Vinci Code ?
Mais précisément, ne peut-on pas dire qu'elle est l'épouse de Jésus ? Elle est l'épouse vraiment du Dieu fait homme ?
C'est ce que disait Bérulle. Bérulle, donc le cardinal de Bérulle, vision très mystique du XVIIe siècle, disait que dans sa solitude de la Sainte-Baume, finalement, elle a réussi à recréer Jésus en elle, à se rapprocher encore plus de Jésus absent que lorsqu'il était présent.
Dernière question. Qui est Marie-Madeleine pour vous, Régis Burnet ?
Une énigme.